Bonjour à tous.
Je ne fais que revivre le même jour encore et encore, encore et encore. Et je ne fais que revivre le même jour encore et encore. Je ne fais que revivre le même jour encore. Je ne fais que revivre le même jour encore et encore.
Sur les nouveaux chemins où toute cette semaine nous ne faisons que répéter et répéter la répétition. Ce qui a déjà été joué et rejoué mais s'apprête à être encore rejoué. Après celle de Kierkegaard qui ne va pas sans renouvellement et avant celle de Deleuze qui ne va pas sans différence et celle de la musique qui ne va pas sans création, vivons dès maintenant selon l'éternel retour de Nietzsche qui pour sa part n'admet rien de neuf. Et toute l'équipe des Nouveaux Chemins désire vivre et revivre Marianne Chassor, Antoine Ravon, David Pargamin, Colomba Grossi, Lucie Tardy, sans oublier bien sûr Adèle Van Rett, avec à la lecture des textes Georges Kless et Jean-Louis Jacobin aujourd'hui, à la réalisation Mydia Portis-Guérin et à la prise de son Anthony Thomasson. Ma doctrine enseigne « Vivre de telle sorte qu'il te faille désirer revivre, c'est là ta tâche. Tu revivras dans tous les cas. » Celui à qui l'effort procure le sentiment le plus élevé, qu'il s'efforce. Celui à qui le repos procure le sentiment le plus élevé, qu'il se repose. Celui à qui le fait de s'intégrer, de suivre, d'obéir procure le sentiment le plus élevé, qu'il obéisse. Pourvu qu'il prenne conscience de ce qui lui procure ce sentiment-là et qu'il ne recule devant aucun moyen. Il y va de l'éternité. C'est alors qu'il marche en août 1881 dans la forêt, au bord du lac de Silvaplana, que Nietzsche a l'intuition de l'éternel retour, ou la vie qui ne cesse de revenir, de se revivre. De quoi repenser à chacun de nos faits et gestes, de porter une attention soucieuse à nos manières, de quoi réfléchir apparemment à ce que l'on désire voir revenir. Mais comment encore désirer quand on nous l'impose? Comment encaisser, sans dégoût et même jusqu'à le souhaiter, l'annonce de l'éternel retour? Bonne ou mauvaise nouvelle, prise de conscience de notre sentiment le plus élevé ou nécessité implacable de ce « tu revivras dans tous les cas », comment dire oui à notre tour à ce que Nietzsche voyait comme l'affirmation même de la vie? Réponse aujourd'hui et dès maintenant avec Patrick Wötling, professeur à l'Université de Reims, spécialiste de la pensée de Nietzsche, fondateur et directeur du groupe international de recherche sur Nietzsche et auteur entre autres d'un dictionnaire Nietzsche en collaboration avec Céline Denat, mais aussi de la philosophie de l'esprit libre, introduction à Nietzsche, disponible chez Flammarion. Bonjour et merci à vous.
Bonjour.
Et si un jour ou une nuit, un démon se glissait furtivement dans ta plus solitaire solitude et te disait... Cette vie, telle que tu la vis et l'as vécue, il te faudra la vivre encore une fois, et encore d'innombrables fois, et elle ne comportera rien de nouveau, au contraire. Chaque douleur et chaque plaisir et chaque pensée et soupir et tout ce qu'il y a dans ta vie d'indiciblement petit et grand doit pour toi revenir, et tout suivant la même succession et le même enchaînement. Et également cette araignée, ce clair de lune entre les arbres, et également cet instant et moi-même. L'éternel sablier de l'existence est sans cesse renversé, et toi avec lui, poussière des poussières. Ne te jetterais-tu pas par terre en grinçant des dents et en maudissant le démon qui parla ainsi? Ou bien as-tu vécu une fois un instant formidable où tu lui répondrais « Tu es un dieu et jamais je n'entendis rien de plus divin. Si cette pensée s'emparait de toi, elle te métamorphoserait, toi, tel que tu es, et peut-être t'écraserait. La question, posée à propos de tout et de chaque chose, veux-tu ceci encore une fois et encore d'innombrables fois, ferait peser sur ton agir le poids le plus lourd, ou combien te faudrait-il aimer et toi-même et la vie pour ne plus aspirer à rien d'autre qu'à donner cette approbation et à poser ce sceau ultime et éternel.
Patrick Botling, on vient d'entendre, interprété par Georges Clès, le paragraphe 341 du livre 3 du Gai Savoir de Nietzsche. Nietzsche y donne la formulation, vous nous direz peut-être, la plus explicite de ce qu'est l'éternel retour, à savoir d'abord une expérience qu'il soumet au lecteur.
Oui, effectivement, il y a plusieurs modes de présentation de l'éternel retour. C'est une des difficultés de cette pensée qui est probablement une des plus compliquées de l'univers nietzschéen. Et vous avez tout à fait raison de dire que dans ce qui était originellement la quasiment fin, l'avant-dernier paragraphe du Gai Savoir, puisque le livre 5 n'a été ajouté qu'après, Nietzsche donne effectivement la présentation qu'on peut dire la plus claire, la plus parlante, certainement, de ce que sont véritablement ses intentions avec ce type de doctrine.
Alors, quelles sont ses intentions avec ce type de doctrine? Et pourquoi, d'ailleurs, est-elle l'une des... L'éternel retour, vous l'avez dit, est une des pensées les plus compliquées de l'univers nietzschéen?
Alors, c'est une des plus compliquées parce que c'est une pensée qui a l'air de signifier quelque chose qu'elle ne signifie pas chez Nietzsche. Que cette espèce de jeu du chat et de la souris, de tromperie, fait partie en quelque sorte de la logique que Nietzsche met en œuvre. C'est compliqué parce que on ne peut comprendre véritablement la signification de cette pensée que si on entre dans l'organisation très particulière de la réflexion philosophique telle que Nietzsche la comprend. En d'autres termes, il faut quitter les habitudes de pensée qui sont celles de la tradition philosophique, c'est-à-dire la compréhension de la philosophie comme recherche de la vérité, comme construction du savoir. Ça n'est pas ce genre de problématique que répond la pensée de l'éternel retour. C'est à une problématique tout à fait différente dont Nietzsche montre qu'elle doit se substituer précisément à cette traditionnelle recherche de la valeur, à savoir ce qu'il appelle le problème de la culture ou le problème des valeurs. Disons le problème des valeurs sera peut-être plus simple. C'est à une question de mise en place, disons, de valeurs, de réflexion sur les valeurs et d'intervention pratique sur les valeurs que doit répondre pour Nietzsche cette pensée assez fascinante et assez déroutante à la fois de l'éternel retour.
Donc vous l'avez dit, c'est une doctrine, il y a une dimension pratique à l'éternel retour, il n'y a pas du tout une dimension théorique. Néanmoins, vous avez parlé d'autres modes de présentation de l'éternel retour qui peuvent justement porter à confusion. On pourrait croire que l'éternel retour, et d'ailleurs dans le texte qu'on entend, même si c'est une adresse à un lecteur, il dit bien, et également cette araignée et ce clair de lune entre les arbres, et également cet instant et toi-même, tout doit revenir. On pourrait très bien identifier l'éternel retour à une loi de la nature.
Oui, en effet. C'est du reste l'un des éléments généraux du dispositif et c'est là que les choses deviennent compliquées. Puisque la doctrine elle-même, le contenu de la doctrine, dit bien ce que vous venez de décrire. C'est-à-dire, cette vie, tu la revivras éternellement. Il n'y a pas d'échappatoire, c'est une nécessité absolue, elle va recommencer à l'identique une infinité de fois. Du reste, tu n'en as pas conscience, mais tu l'as déjà vécu une infinité de fois à l'identique. Le point capital, c'est cela, à l'identique, sans que rien, absolument rien, ne change. Ça, c'est le contenu de la doctrine. Maintenant, le deuxième aspect de cette pensée, c'est le statut que le philosophe lui donne, que Nietzsche lui donne. Le fait que cette doctrine se présente lorsqu'on l'entend comme une sorte d'affirmation d'une loi générale de la réalité, de l'être, de la nature, du monde, appelons ça comme on veut, ça n'indique pas pour autant que le philosophe, lui, considère qu'effectivement, il s'agisse d'une réalité objective. Il faut faire une différence entre le contenu de la doctrine et puis le statut que le philosophe lui donne. Or, Nietzsche, effectivement, ne pense absolument pas, rien ne permet d'affirmer dans son corpus qu'il pense effectivement que la réalité est structurée par une répétition à l'identique. En revanche, il y a d'autres modes de présentation, en particulier celui qu'on qualifie ordinairement, en allant un petit peu vite, de scientifique ou d'allure scientifique, qui est du reste, qui n'apparaît jamais dans les textes publiés par Nietzsche, uniquement dans des essais, des brouillons, qui sont des textes, ce qu'on appelle des textes posthumes, et qui datent en gros de l'époque que vous avez évoquée tout à l'heure, le tout début des années 80, lorsque Nietzsche conçoit et formule véritablement cette pensée. Alors là, on a une présentation je le disais, d'allure scientifique est un peu plus déroutante, parce qu'effectivement, à lire ces textes, on a le sentiment, en effet, que c'est un contenu de savoir qui nous est présenté. Ça pose le problème, bien entendu, de la justification de cette multiplicité de ce mode de présentation, et puis éventuellement de l'articulation de ces différents modes.
Donc l'éternel retour, on pourrait dire que c'est une hypothèse ? Que c'est une hypothèse non pas scientifique, mais une sorte de test, d'épreuve lancée au lecteur ?
Plutôt un test ou une épreuve, effectivement, qu'une hypothèse, puisqu'hypothèse, ça demeure tout de même un terme qui est attaché à la construction d'une forme de savoir dans le cadre, disons, d'un protocole scientifique. Le terme que Nietzsche utilise presque systématiquement pour qualifier cette pensée est le terme de doctrine. Doctrine, ce qui est assez curieux pour un philosophe aussi antidogmatique que Nietzsche, c'est-à-dire un philosophe qui ne prétend justement pas défendre des doctrines ou des thèses. Donc on est surpris de voir cette qualification. Mais c'est une indication importante sur le statut que possède précisément cette pensée à l'intérieur de son questionnement, je crois. C'est-à-dire quelque chose qui est de nature opératoire, qui ne relève pas de nature pratique, comme vous l'avez dit, c'est-à-dire qui un instrument qui doit jouer un rôle particulier, un instrument que Nietzsche décrit souvent de manière imagée comme un marteau, par exemple. Cette pensée est comparée assez souvent à un marteau, qui doit produire donc un effet pratique et non pas apporter un savoir théorique.
Vous avez dit que le terme important était à l'identique. Et à la différence de Kierkegaard dont on a parlé hier, la répétition en fait est une forme chez Kierkegaard de renouvellement, d'actualisation. Il y a du neuf dans la répétition. Or là, Nietzsche le dit, il n'y a rien de nouveau. Néanmoins, il n'exclut pas le fait qu'il y ait une métamorphose du lecteur, de l'individu à qui s'adresse cet éternel retour. Est-ce qu'on pourrait dire du coup que chez Nietzsche, pour rester dans le thème de notre semaine sur la répétition, la répétition en fait est identique, mais néanmoins elle n'exclut pas le changement.
Le contenu de la répétition comme croyance, c'est l'identité absolue. Ta vie se répétera indéfiniment, sans terme et sans que tu aies aucun moyen ni d'arrêter le processus, ni de changer quoi que ce soit à son contenu. Ta vie va se répéter indéfiniment, de manière absolument identique. Le contenu de la croyance. Bien entendu, si on prenait ce contenu pour un savoir véritable sur le monde, ça entrerait en totale contradiction avec l'idée que ça puisse produire une transformation de l'individu. C'est un des indices justement qui oblige à réfléchir au statut très très déroutant de cette pensée. Et ça montre bien que Nietzsche entend l'utiliser en effet comme un instrument pour produire dans la réalité un effet qui est un effet transformateur sur l'homme, sur le type d'homme, disons, qui existe de manière majoritaire dans les cultures, disons, les cultures décadentes, nihilistes, en tout cas dans la nôtre, à commencer, c'est-à-dire des cultures qui éprouvent un sentiment de condamnation, de critique, d'injustice à l'égard de l'existence.
Que je raconte est l'histoire des deux siècles prochains. Je décris ce qui vient, ce qui ne peut plus venir d'une autre manière, l'avènement du nihilisme. Cette histoire peut être relatée dès maintenant, car c'est la nécessité elle-même qui est ici à l'œuvre. Cet avenir parle déjà par mille signes, ce destin s'annonce partout. Pour cette musique de l'avenir, toutes les oreilles se sont d'ores et déjà affinées. Notre culture européenne tout entière se meut, depuis longtemps déjà, avec une torturante tension qui croît de décennie en décennie, comme portée vers une catastrophe. Inquiète, violente, précipitée, comme un fleuve qui veut en finir, qui ne cherche plus à revenir à soi, qui craint de revenir à soi.
Vous allez détruire des millions de vies.
Je réserverai à un homme cynique cet emploi du mot vil et concernant. Crime, désespoir. Ce n'est pas ainsi que l'homme était destiné à vivre. La Ligue des Ombres est un frein puissant à la corruption humaine depuis des milliers d'années. Nous avons pillé Rome, envahi les navires marchands de rats pestiférés, réduit Londres en cendres. Chaque fois que la civilisation atteint l'apogée de sa décadence, nous venons rétablir l'équilibre.
Gotham n'est pas encore perdu. Donnez-moi plus de temps. Il y a des gens bien ici.
Tu défends une ville à tel point corrompue que nous avons infiltré tous les niveaux de son infrastructure. J'ai détruit ta peur et je t'ai montré la voie. Tu étais mon meilleur disciple. Tu devrais aujourd'hui être à mes côtés pour sauver le monde.
Ma place, je vais la prendre. Entre vous et les habitants de Gotham.
Personne ne peut sauver Gotham. Quand une forêt devient trop sauvage, une purification par le feu me semble inévitable et naturelle. Demain, le monde assistera avec horreur à l'autodestruction de sa plus grande ville. Rien ni personne n'empêchera le retour de l'harmonie cette fois.
Vous avez déjà attaqué cette ville.
Au cours du temps, nos armes sont devenues plus sophistiquées. Avec Gotham, nous en avons essayé une nouvelle, l'économie. Mais nous avions sous-estimé certains de ses habitants.
Patrick Wötling, il faut revenir au contexte dans lequel l'éternel retour apparaît dans la pensée de Nietzsche. Et comme l'extrait de Batman qu'on a entendu, alors c'est le film Batman Begins de Christopher Nolan qui date de 2005, où tout n'est que décadence, corruption, violence, on peut dire que Nietzsche écrit, comme je l'ai lu dans son fragment posthume, dans une période d'avènement du nihilisme. La civilisation, dit-il, se précipite vers la catastrophe. Et loin de vouloir donner un sens, finalement, de retrouver une fin, Nietzsche veut, comme dans l'extrait qu'on a entendu de Batman, veut précipiter cette catastrophe. Il veut radicaliser ce nihilisme avec justement cette pensée de l'éternel retour.
Oui, la pensée de l'éternel retour est une réponse en fait. Ce n'est pas, comme je le disais tout à l'heure, un savoir qui serait intrinsèquement justifié. C'est une réponse qui est imaginée pour réagir face à un problème urgent qu'il appelle techniquement le nihilisme. Il faut rappeler brièvement ce qu'il appelle de la sorte. Nihilisme, c'est un mot technique chez Nietzsche qui désigne la dévalorisation des valeurs. Le fait que les valeurs, c'est-à-dire nos normes, nos obligations et nos prohibitions fondamentales, celles qui constituent le socle de notre manière de vivre, pour nous, par exemple, la croyance en un bien et en un mal, qui sont opposées de manière contradictoire, la croyance à la vérité, eh bien, cette autorité des valeurs est en train de se détruire, de se dissiper. C'est cela, le nihilisme. Cette perte des repères produit une sorte de dégoût généralisé, de perte de confiance dans l'existence, de dégoût généralisé de l'existence. C'est pour cela que Nietzsche nous dit que c'est un fleuve qui est en train dont le courant est en train de s'entraîner, d'accélérer et de nous mener à une catastrophe inéluctable. Il s'agit précisément d'enrayer ce processus. C'est à cela que la pensée de l'éternel retour doit précisément apporter une solution, c'est-à-dire restaurer la confiance dans l'existence, restaurer en quelque sorte la défense de la vie et de l'épanouissement de cette existence.
Mais comment restaurer précisément avec une doctrine qui enfonce le clou, c'est-à-dire qui en gros ne va pas rétablir des valeurs, ou du moins en tout cas va déjà passer par un renversement des valeurs, détruire déjà les valeurs qui sont en place et que Nietzsche juge mortifères. Comment restaurer en passant d'abord par la destruction et par la mort?
Il s'agit bien effectivement de restaurer des valeurs. L'éternel retour, si on veut comprendre réellement quelle est sa signification chez Nietzsche, ben c'est précisément une signification axiologique. C'est une valeur, ou plus exactement, il s'agit d'en faire une valeur. Pour l'instant, c'est une simple doctrine. On en parle comme d'une croyance, d'une idée un peu bizarre. Et Nietzsche imagine les moyens qui permettraient de faire de cette doctrine quelque chose d'aussi profondément enraciné, d'aussi directeur, d'aussi organisateur et régulateur de notre existence que l'est, par exemple, pour nous actuellement, l'idée de vérité. qui de fait organise et régule toute une série de choses dans notre existence. La chose la plus surprenante, c'est que la voie effectivement qui est envisagée, c'est celle de la radicalisation du nihilisme. À première vue, on ne voit pas très bien en quoi le fait de radicaliser un mal va se changer en remède. Et c'est là peut-être qu'il faut en revenir au paragraphe du Gai Savoir que nous lisions, que nous entendions lire tout à l'heure, puisque Nietzsche, ça nous explique bien en quoi il s'agit d'un test. Nietzsche envisage précisément le type de réaction qui sera celui du récepteur ou de l'auditeur face à cette doctrine. Et il envisage donc deux possibilités, soit le désespoir, parce qu'effectivement cette doctrine est une radicalisation du nihilisme, elle vous dit que cette vie, que actuellement, dans l'état de culture qui est celui de l'Europe, c'est-à-dire un état de culture ascétique, qui néglige et qui méprise le sensible, qui nous dit que l'existence n'a pas de valeur, que si quelque chose a de la valeur, c'est une autre vie, dans un autre monde, dans un au-delà, dans une transcendance, etc. En s'entendre dire que la seule vie, c'est cette ici-bas, avec ses misères, ses injustices, ses cruautés, voire ses horreurs, c'est une pensée absolument désespérante. On peut imaginer que pour l'essentiel des Européens, première vue, première réaction en quelque sorte, ce sera une pensée éprouvée comme absolument insupportable, désespérante. Et encore maintenant, bien entendu. Nietzsche nous dit bien, l'histoire des deux prochains siècles, ce que je raconte, on y est encore.
C'est vrai.
Mais il y a une deuxième possibilité qu'il envisage, et c'est vers cette possibilité qu'il veut précisément nous faire aller, c'est-à-dire le sentiment au contraire d'ivresse, le sentiment de délivrance que cette pensée peut, dans certaines conditions, selon Nietzsche, apporter. Tu es un dieu, je n'ai jamais rien entendu de plus divin. Le problème est de savoir comment nous pourrons aller vers cet état qui nous fera ressentir l'attachement à l'existence sans rien en ôter. Il ne s'agit pas de corriger l'existence, d'enlever les petites misères ou les grandes horreurs qu'elle contient, mais d'acquiescer, de dire oui à l'existence dans sa totalité, c'est-à-dire de comprendre en fait que le mouvement de condamnation de l'existence qui était dicté par les impératifs ascétiques de notre culture moralisante, eh bien ce mouvement est un mouvement qui est justement mortifère, pour reprendre le terme très juste que vous avez utilisé. Et c'est de ça qu'il s'agit de se libérer. Il ne s'agit pas de dire la vie est belle, tout est merveilleux, ou on peut la corriger, la rendre belle. Non, elle est ce qu'elle est. Elle est ce qu'elle est, avec ses horreurs, avec ses cruautés, avec ses souffrances. En revanche, la qualifier moralement et la condamner moralement, non seulement ne change rien à sa situation, mais en outre aggrave, détériore considérablement la situation de celui qui vit cette existence. On a affaire donc, dans la logique du nihilisme que Nietzsche détecte, à une espèce d'effet d'amplification, je dirais presque de boule de neige, qui est une sorte de mouvement finalement d'autodestruction. C'est cela que Nietzsche décrit, et c'est à cela que la pensée, la doctrine de l'éternel retour, si elle devient une valeur, doit pouvoir à terme, Nietzsche dit toujours à très long terme, des siècles et parfois des millénaires, nous dit-il, elle doit pouvoir entraîner une transformation justement de notre rapport à l'existence.
Quand vous dites rapport à l'existence, c'est aussi rapport à la vie, parce qu'il y a quelque chose de complètement vitaliste dans cet éternel retour. C'est-à-dire que la valeur qu'est l'éternel retour n'est pas une valeur, comme vous l'avez dit, abstraite, moralisante, moralisatrice. Nietzsche n'est pas comme Batman, il n'est pas un justicier, il n'est pas dans la compassion, dans la pitié, il n'est pas dans ces grandes phrases faites sur l'égalité. Bien au contraire, il est dans cette perspective vitale et vitaliste qu'est l'éternel retour, et qui d'ailleurs l'entraîne, on peut aussi le remarquer, qui l'entraîne quand même à faire une distinction entre les individus. Tout le monde n'est pas capable d'encaisser cet éternel retour, tout le monde n'est pas capable d'avoir plus, d'affirmer la vie par cet éternel retour.
Il faut dire oui, et un oui franc et massif aux deux points que vous venez de soulever. Effectivement, il y a un rapport, ce qui est au cœur de la pensée de l'éternel retour, c'est effectivement la restauration de la puissance de la vie. Nietzsche appelle ça la santé, parfois c'est une image, mais qui est assez parlante, qui veut bien ce qu'elle veut dire, c'est-à-dire la vie dans son épanouissement, dans ce qu'elle a de plus fort, la vie dans sa capacité d'affronter précisément les problèmes, les souffrances dont l'existence est une suite quasi continue. continu, ça fait partie précisément, c'est un élément de la vie, ceci. Et c'est cela précisément que l'interprétation ascétique ou les interprétations, disons, transcendantes, religieuses et autres, ne veulent pas voir ou essaient de combattre. Donc en cela, elle mutile en quelque sorte l'expérience réelle. Ceci est incontestable. D'autre part, le caractère absolument désespérant de la première réception, en quelque sorte, de cette doctrine est tout à fait évident. Nietzsche nous dit que c'est une pensée qui va susciter des crises profondes, des crises comme l'humanité n'en a probablement jamais connues. Et c'est pour ça que la question de l'effet à long terme ou à très long terme, et pas de l'effet instantané, qui lui... à coup quasiment certain, va être un effet désespérant, mais c'est pourquoi la question de l'effet à très long terme devient une question philosophiquement intéressante. C'est-à-dire que lorsqu'une accommodation se sera effectuée à cette idée, qu'adviendra-t-il ? Quel sera l'effet produit sur l'humanité ? On pourrait, Nietzsche le fait d'ailleurs dans certains textes, faire un parallèle avec les changements axiologiques, les renversements de valeurs que l'humanité a déjà connus. L'histoire de l'humanité n'est faite que d'une succession de modifications et de renversements de valeurs. Les valeurs qui sont actuellement les nôtres ne sont pas des valeurs éternelles. Elles ont été imposées. Grosso modo, elles se sont fixées avec le platonisme, puis elles ont été en quelque sorte sanctionnées, enracinées plus profondément encore avec le christianisme ultérieurement, dont Nietzsche fait toujours une espèce de platonisme simplifié en quelque sorte. L'idée par exemple de damnation éternelle, qui est au cœur de la doctrine chrétienne, quelque chose qui a réglé la manière de vivre de l'humanité européenne pendant des siècles, c'est quelque chose qui a produit des effets, transformateurs sur l'homme. On ne vit pas de la même manière, on n'organise pas son action et son existence de la même manière quand on croit à la possibilité ou à la réalité de la damnation éternelle ou quand on croit à la réalité de l'éternel retour.
Pensez-vous qu'on est à une époque où l'éternel retour a fait son chemin, où finalement on s'en est accommodé ? Est-ce que c'est une valeur qui nous est devenue familière ?
Non, je pense qu'elle est toujours. Nous avons toujours les mêmes sentiments d'incompréhension, d'étonnement et de fascination. En lisant les textes de Nietzsche à cet égard, ce qui, me semble-t-il, suffit à montrer que on est très très loin du phénomène d'incorporation, d'assimilation profonde qui ferait véritablement de cette doctrine une valeur. Ça reste pour l'instant, pour nous, un objet de contemplation intellectuelle, d'interrogation. Ça n'est pas une valeur au sens où la vérité, par exemple, est une valeur. Personne n'aurait l'idée dans nos cultures de, sauf Nietzsche peut-être, de remettre en cause soudain la pertinence de la notion de vérité. C'est une chose qui est tellement intériorisée qu'elle va de soi. Voilà, une valeur, c'est vraiment ça. C'est quelque chose dont on ne discute même plus l'autorité. L'éternel retour, à l'évidence, n'est pas du tout dans cette situation, ce qui veut dire que le processus imaginé par Nietzsche n'est pas du tout en train de se réaliser, probablement.
Il est 10h28, vous êtes sur France Culture, sur les nouveaux chemins de la connaissance. C'est une semaine sur la répétition, la reprise, le retour que vous écoutez. Et aujourd'hui, pour ce deuxième temps, c'est de Nietzsche et de l'éternel retour qu'il est question, en compagnie du professeur à l'université de Reims, spécialiste de la pensée de Nietzsche, fondateur et directeur du groupe international de recherche sur Nietzsche, Patrick Wötling, aussi auteur du dictionnaire Nietzsche en collaboration avec Céline Dena, mais aussi de la philosophie de l'esprit libre, introduction à Nietzsche.
Yeah. Monsieur l'abbé, je voudrais vous dire quelque chose. Voilà, je suis flambée.
Vous êtes flambée?
Oui, je me convertis, je suis à vos ordres.
Qu'est-ce qui vous est arrivé?
Rien. Je vais devenir ou redevenir catholique.
Pourquoi?
Je suis acculée, je me rends.
Vous êtes peut-être un peu trop fatiguée ou sous-alimentée ces temps-ci.
Non, je ne suis pas fatiguée. Et on vient de toucher des pommes de terre.
Pourquoi vous voulez vous convertir?
Je ne veux pas. Je suis obligée.
Qu'est-ce que c'est pour vous une conversion?
Se mettre à suivre les préceptes du Christ.
Faudrait mieux que vous réfléchissiez avant de prendre une décision qui engage toute la vie.
Ce n'est pas une décision. Je n'ai pas le choix.
Il vous semble que vous n'avez pas le choix. Parce qu'en ce moment, vous êtes un peu nerveuse, exaltée.
Oh non. J'étais d'un calme dans le grenier, toute seule.
Et qu'est-ce qui est arrivé dans le grenier?
Il n'est rien arrivé du tout. Au contraire, tout a été fini.
Comment ça?
Comme quand l'orcelle a sauté.
Elle est complètement en braque, cette fille.
Vous croyez bien que si je me convertis, c'est à mon corps défendant.
Voilà une possédée. Il va falloir que je vous exorcise.
Monsieur l'abbé, vous qui naturellement envisagez en tout point de manière à me christianiser, on dirait que maintenant vous voudriez réellement m'empêcher de suivre votre Seigneur.
Pourquoi vous le suivriez?
Parce que je ne suis pas sûre que ce qu'il a dit était faux.
Vous allez vous empoisonner l'existence. Vous allez gâcher votre vie.
Oui, c'est vrai. Vous vous dites cela pour m'éprouver, c'est évident. Et moi, je sais bien que rien ne m'est jamais arrivé, ni ne pouvait m'arriver de pire.
Mais si tout est nécessaire, en quoi puis-je décider de mes actes? La pensée de l'éternel retour et la croyance à ce retour forment une pesanteur qui, parmi d'autres pesanteurs, t'oppresse et pèse sur toi davantage que celle-ci. Tu dis que la nourriture, le lieu, l'air, la société te changent et te déterminent. Or, tes opinions le font bien plus encore, car celles-ci te déterminent à choisir telle nourriture, tel lieu, tel air, telle société. Si tu incorpores la pensée des pensées, elle te métamorphosera. La question que tu te poses pour tout ce que tu veux faire, « le voudrais-je de telle sorte que je veuille le faire d'innombrables fois », constitue la pensée la plus importante.
Alors Patrick Wötling, il peut paraître un petit peu bizarre hein, de mettre en parallèle un extrait tel que celui qu'on a entendu. C'est le film de Jean-Pierre Melville, Léon Morin, prêtre, avec un texte de Nietzsche, d'autant que Nietzsche condamne complètement le christianisme comme l'antithèse de la vie. Et pourtant, dans le texte qu'on a entendu, interprété par Georges Claes, c'est un fragment posthume de l'époque du Gai Savoir. Il affirme bien que l'éternel retour, la pensée de l'éternel retour, est de l'ordre de la croyance. Alors, comment interpréter cette idée de croyance de l'éternel retour sans la réduire à une dimension religieuse, idéaliste, transcendantale, comme le christianisme?
Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est le statut que nous accordons ordinairement à la religion qui est fautif. C'est ça qui justifie en fait le rapprochement que fait Nietzsche. C'est-à-dire que nous avons tendance parce que nous vivons précisément dans une culture qui est déjà en quelque sorte formatée, conditionnée justement par de très fortes croyances ascétiques, notamment religieuses. Nous avons tendance donc à traiter en quelque sorte la religion comme une espèce de corps de doctrine, disons, qui relèverait donc de la logique de la vérité. Ce que Nietzsche montre, c'est que ce qui est essentiel dans une religion, quelle qu'elle soit du reste, hein, que ce soit une religion païenne, polythéiste, ascétique, monothéiste, ça, tout ça ne change absolument rien, c'est la conquête de l'autorité. Et ce qui l'intéresse fondamentalement, c'est de savoir quels sont les moyens que les religions utilisent, que les fondateurs de religions utilisent pour parvenir à imposer des valeurs et à modifier les valeurs, c'est-à-dire pour parvenir à conquérir de l'autorité. À cet égard, la logique, si vous voulez, qui est suivie, donc tout se ramène à une question de valeurs. C'est pour ça que je disais que c'est la question fondamentale chez Nietzsche, celle-là. la vérité elle-même n'est qu'une valeur particulière. La question fondamentale pour Nietzsche, c'est cette question précisément de la logique de l'instauration des valeurs. C'est cela qui l'intéresse dans l'histoire des religions, en quelque sorte. Le christianisme est extrêmement instructif. Donc il ne faut pas confondre deux choses, sont le contenu des thèses défendues par telle ou telle religion. Et en cela, vous avez parfaitement raison, il y a une antithèse absolue entre ce que Nietzsche essaie de penser avec l'éternel retour et ce que le christianisme présente comme à titre de doctrine. Et puis d'autre part, la logique de mise en place des valeurs, puisque c'est cela qui se joue fondamentalement dans une religion. C'est du reste pour ça que dans certains fragments un peu bizarres et sur lesquels les commentateurs ont parfois eu tendance à fantasmer de manière un petit peu illégitime, Nietzsche qualifie la doctrine de l'éternel retour de religion des religions. Ce qui ne veut pas dire que ça va être une pensée religieuse, ça veut dire que les moyens, la logique qu'elle essaie de mettre en œuvre est exactement celle de la prise d'autorité qui a été celle des religions, particulièrement celles qui sont avérées victorieuses.
Dans le texte aussi qu'on a entendu, interprété par Georges Clès, Nietzsche dit « si tu t'incorpores la pensée des pensées, elle te métamorphosera ». C'est aussi un terme qu'on a entendu dans le paragraphe 341 du Gai Savoir qu'on a diffusé au tout début de notre conversation. Cette idée de métamorphoser, c'est aussi quelque chose qu'on retrouve dans l'extrait du film Léon Morin prêtre. Emmanuel Riva, le personnage d'Emmanuel Riva, parle bien d'une incorporation, c'est-à-dire que elle s'est convertie, elle le ressent dans son corps, mais elle dit quand même à son corps défendant, c'est-à-dire qu'elle ne le veut pas, mais elle le ressent dans son corps. Or, cette idée d'éternel retour chez Nietzsche a vraiment une dimension vitaliste, mais vitaliste aussi parce que elle prend place dans le corps, elle métamorphose véritablement l'individu.
Comme le dit Zarathoustra dans l'ouvrage de Nietzsche, je suis corps et rien d'autre. La réalité, effectivement, telle que Nietzsche l'analyse, c'est une réalité dont il faut extirper, éliminer les ajouts illégitimes, indus, c'est-à-dire tout ce qui relève du purement intelligible, du transcendant, du non-sensible. La réalité, c'est l'apparence, c'est le sensible, ça n'est que ça. Je suis corps et rien d'autre. Il n'y a pas d'âme suprasensible, etc. Donc un effet transformateur, ce sera nécessairement un effet sur le corps. Et c'est bien effectivement ce qu'il faut essayer de penser lorsqu'on parle d'incorporation. Incorporation est un terme qu'il faut prendre très au sérieux. C'est encore un de ces termes techniques chez Nietzsche qui a une signification très très précise. Ça signifie que une croyance, ce qui est au départ simplement une croyance, un objet donc que l'on rencontre intellectuellement, finit par être rendu inconscient. Il finit par passer dans la vie du corps, c'est-à-dire qu'il finit par devenir une régulation. Une régulation de la vie, une régulation d'un certain type de corps, d'une certaine organisation du corps. Je crois que le plus parlant, c'est de se pencher sur ce qui est notre situation à nous. Par exemple, pour nous, je le disais tout à l'heure, la vérité, c'est une valeur, c'est quelque chose qui est incorporé. On ne se demande plus si la vérité, c'est une idée pertinente ou pas pertinente. C'est une évidence pour nous. Une évidence peut-être fausse au demeurant, mais enfin c'est une évidence dans notre mode de vie et notre mode d'action que la vérité, c'est quelque chose qui a de la réalité, et non seulement qui a de la réalité, mais qui a un prix, une valeur telle que ça doit régler notre existence, notre action. Nous devons vivre en recherchant la vérité. Voilà, une valeur, c'est ça. C'est quelque chose qui passe dans la vie du corps jusqu'à devenir un impératif. C'est ça qu'il s'agit de faire avec l'éternel retour. Et la logique, encore une fois, que ce soit celle du christianisme, qui a été un renversement de valeurs, une imposition, une confirmation, en tout cas, du renversement des valeurs instauré par le platonisme, ou que ce soit la logique nietzschéenne de l'éternel retour, finalement, cela repose exactement sur les mêmes rouages. L'incorporation, modification du corps, c'est-à-dire modification de ce que Nietzsche appelle les pulsions, le corps étant pensé comme un ensemble de pulsions, un ensemble de processus inconscients.
Mais pourquoi chercher à vivre selon l'éternel retour alors que, comme Nietzsche le dit, de toute façon, il y a éternel retour. C'est-à-dire que même si on ne le prend pas au sérieux épistémologiquement parlant, si ce n'est pas une théorie, si ça n'est pas vrai, si c'est une hypothèse, un test, une épreuve adressée au lecteur, qu'est-ce que ça va changer ? On pourrait très bien se dire, oui, les choses reviennent. Cette chose-là était mauvaise, je vais la revivre. De toute façon, c'est un oui à tout ce que comporte l'existence dans ce qu'elle a de plus mauvais ou dans ce qu'elle a de meilleur. Qu'est-ce que ça touche véritablement en l'homme ? C'est-à-dire qu'il y a quand même quelque chose d'un peu vain aussi à l'éternel retour.
Il ne faut pas confondre le point de vue du philosophe que Nietzsche qualifie souvent de législateur. Un vrai philosophe, c'est quelqu'un qui légifère, c'est-à-dire quelqu'un qui se contente pas de chercher des vérités, de construire de la connaissance, mais qui teste en quelque sorte l'impact des différentes valeurs et qui surtout doit faire en sorte d'imposer des valeurs qui soient favorables au développement de la vie. Donc le point de vue du philosophe et le point de vue du récepteur, je dirais. Non, pour le philosophe, tout ne revient pas à l'identique. Ça, c'est le contenu de la doctrine. Ça n'est pas du tout c'est le contenu de la doctrine, c'est le contenu de l'instrument grâce auquel on va essayer de produire un changement sur l'humanité. Pour quelle raison ? Parce que l'humanité est en situation de suicide actuellement. Elle marche à sa perte et elle y marche avec désespoir, avec un sentiment d'inéluctable. Donc la situation est urgente. Il faut enrayer coûte que coûte et très rapidement cette espèce de retournement de la vie contre elle-même. Mais le philosophe, si vous voulez, ne confond pas, lui, cet instrument et puis le statut réel de la du monde extérieur, de la réalité, disons. Un commentateur disait un commentateur italien qui était l'un des éditeurs de Nietzsche disait très justement: rien ne permet d'affirmer que Nietzsche croyait à cette doctrine de l'éternel retour. Et moi, je dirais même plus loin en disant que tout permet d'affirmer qu'il n'y croyait pas. Parce que le problème n'est pas
lui-même
du tout celui-là.
Pas.
Non, il n'y croyait pas. Le problème n'est pas celui-là. Pas plus, vous dit-il. Je vais prendre un autre exemple qui parlera à tous les amateurs de philosophie. On présente toujours Platon comme étant, enfin, la doctrine fondamentale du platonisme comme étant la doctrine des idées. C'est-à-dire le fait qu'il existe une réalité suprasensible, les idées ou les formes. Bon. De manière très surprenante, Nietzsche, qui est helléniste, hein, qui est spécialiste du monde grec, qui connaît bien Platon, nous dit dans plusieurs textes: Platon ne croyait pas aux idées. Il a défendu un philosophe, c'est assez curieux, parce qu'on se fait, nous, toujours l'idée du philosophe comme quelqu'un qui recherche la vérité, donc on ne s'attend pas à le voir défendre des mensonges. Mais il n'y croyait pas parce que Platon avait parfaitement compris ce que c'était que la philosophie, c'est-à-dire une action transformatrice sur l'homme. Il cherchait, par cette doctrine des idées, il y est d'ailleurs parfaitement parvenu à cet égard, nous sommes tous des enfants de Platon ou des platoniciens sans le savoir, il cherchait à transformer l'homme dans une certaine direction, le moyen en était la doctrine des idées. On se trouve chez Nietzsche dans une situation à peu près comparable, si ce n'est que la visée est inverse. Il ne s'agit pas de détacher l'homme du sensible, mais au contraire de le réconcilier avec l'existence sensible. Donc on comprend parfaitement dans cette perspective-là, si vous voulez, que l'éternel retour, ça ne décrit pas une structure objective de la réalité. C'est une doctrine qui, si elle passe à l'état de valeur, c'est-à-dire si on y croit, mais comme nous croyons actuellement à la vérité, et puis demain nous croirons à autre chose, va modifier nos équilibres internes, va modifier notre rapport à l'existence, c'est-à-dire va nous imposer des priorités différentes de celles que nous avions jusqu'à présent, va rééquilibrer en quelque sorte, va créer une nouvelle, Nietzsche appelle ça une interprétation, un nouveau rapport à l'existence.
Regarde cet instant. À partir de cette poterne de l'instant, une longue route, une route éternelle s'étend en arrière de nous. Il y a une éternité derrière nous. Tout ce qui de toute chose est apte à courir n'a-t-il pas dû nécessairement parcourir une fois cette route ? Tout ce qui peut arriver entre toutes les choses ne doit-il pas être déjà arrivé, s'être accompli, être passé ? Et si tout ce qui est a déjà été, que penses-tu de cet instant ? Et toutes choses ne sont-elles pas si solidement enchevêtrées que cet instant présent entraîne à sa suite toutes les choses futures ? Car ce qui de toute chose est apte à courir devra parcourir une fois encore cette longue route qui s'éloigne devant nous. Et cette lente araignée qui rampe au clair de lune, et ce clair de lune, et toi et moi, sous cette poterne, parlant à voix basse de choses éternelles, ne faut-il pas de toute nécessité que les uns et les autres nous ayons déjà existé ? Ne vous faudra-t-il pas revenir et parcourir cette autre route qui s'éloigne devant nous ? Cette route longue et redoutable, ne faut-il pas que tous nous revenions ?
Si la descente se fait certains jours dans la douleur, elle peut se faire aussi dans la joie. Ce mot n'est pas de trop. J'imagine Sisyphe revenant vers son rocher, et la douleur était au début. Toute la joie silencieuse de Sisyphe est là. Son destin lui appartient. Son rocher est sa chose. De même, l'homme absurde, quand il contemple son tourment, fait taire toutes les idoles. Dans l'univers soudain rendu à son silence, les mille petites voix émerveillées de la terre s'élèvent. Appels inconscients et secrets, invitations de tous les visages, ils sont l'envers nécessaire et le prix de la victoire. Il n'y a pas de soleil sans ombre, et il faut connaître la nuit. L'homme absurde dit oui, et son effort n'aura plus de cesse. S'il y a un destin personnel, il n'y a point de destinée supérieure, ou du moins, il n'en est qu'une dont il juge qu'elle est fatale et méprisable. Pour le reste, il se sait le maître de ses jours. À cet instant subtil où l'homme se retourne sur sa vie, Sisyphe, revenant vers son rocher, contemple cette suite d'actions sans lien qui devient son destin, créé par lui, uni sous le regard de sa mémoire et bientôt scellé par sa mort. Ainsi, persuadé de l'origine toute humaine de tout ce qui est humain, aveugle qui désire voir et qui sait que la nuit n'a pas de fin, il est toujours en marche. Le rocher roule encore. Je laisse Sisyphe au bas de la montagne. On retrouve toujours son fardeau. Mais Sisyphe enseigne la fidélité supérieure qui nie les dieux et soulève les rochers. Cet univers désormais sans maître ne lui paraît ni stérile, ni futile. Chacun des grains de cette pierre, chaque éclat minéral de cette montagne pleine de nuit, à lui seul, forme un monde. La lutte elle-même vers les sommets suffit à remplir un cœur d'homme. Il faut imaginer Sisyphe heureux.
Patrick Wöttling, il faut imaginer Sisyphe heureux, il faut aussi imaginer Zarathoustra heureux face à cette poterne qui s'adresse au gnome en lui disant « voilà l'éternité ». Donc d'un côté on a le Sisyphe de Camus, de l'autre le Zarathoustra de Nietzsche, et on y retrouve cette idée de dire oui à l'absurdité, à l'absurde en fait de l'éternité, de parcourir une route que l'on a déjà parcourue. Est-ce que c'est une bonne manière aussi de comprendre l'éternel retour que d'insister aussi sur cette dimension affirmative et même peut-être d'amour, de sentiment qu'est l'éternel retour?
L'immense oui, l'amène illimité, dit Zarathoustra. Donc oui, incontestablement, vous avez tout à fait raison. C'est le cœur de la doctrine de l'éternel retour que de parvenir, je disais tout à l'heure, en faire une valeur, mais une valeur est toujours liée à un type d'affectivité particulier. Là, il s'agit précisément d'instaurer un rapport à l'existence qui soit motivé par l'approbation, par l'acquiescement, par le oui. Dans Zarathoustra, du reste, Nietzsche utilise une très belle image, l'image de l'anneau, pour décrire l'éternité. L'anneau, il ne parle le cycle ou le cercle, comme on s'y attendrait, mais l'anneau de l'éternité. Il est évident que cette image lui permet de jouer évidemment sur les différentes valeurs de l'anneau, en particulier l'anneau nuptial, l'anneau du mariage. Dire oui à la vie, dire oui à l'existence, en quelque sorte, c'est effectivement le cœur de cette réflexion.
Mais comment ne pas mal interpréter aussi ce oui? C'est-à-dire qu'on a aussi tendance à faire de Nietzsche une forme d'esthétisation de l'existence qui est peut-être justifiée, mais qui parfois tombe dans une sorte de facilité, en faire une forme de carpe diem, c'est-à-dire profiter de chaque jour, comme si c'était le dernier, comme si ça allait revenir. Comment ne pas tomber aussi dans cet écueil-là de l'affirmation, de cette affirmation à l'absurde de la vie?
Alors, je vais rester dans Zarathoustra, puisque vous m'y invitez. Vous dit Zarathoustra, effectivement, qui théorise la chose d'une manière absurde de dire oui, ou une manière, disons, superficielle. C'est celle de l'âne. En allemand, les ânes ne disent pas i-an, ils disent i-a. C'est-à-dire, les ânes disent oui, en fait. Et Nietzsche en tire cette idée qu'il y a une manière de dire oui qui n'implique absolument aucun acquiescement profond, qui est une manière simplement superficielle, disons. C'est celle de l'hédonisme. c'est celle du carpe diem, comme vous le disiez, qui n'est qu'un attachement relativement superficiel finalement à l'existence. Là, il s'agit vraiment de trouver une approbation profonde, c'est-à-dire une approbation qui englobe tous les aspects, tout de même négatifs, y compris cruels, horribles, épouvantables de l'existence. Hein. Il s'agit de comprendre dans ce oui à l'existence que la condamnation moralisante de l'existence est illégitime. Ce qui ne veut pas dire, encore une fois, que tout est beau et que tout est merveilleux. Non, il y a de la cruauté, il y a de la terreur, il y a de l'horreur. Mais c'est précisément ça, le véritable oui, c'est parvenir à acquiescer à la totalité de cette réalité. Et la traduction de cet acquiescement, elle est pratique, c'est la volonté de revivre. Si je suis capable de vouloir revivre, comme je veux revivre une belle expérience artistique par exemple, alors je serai dans une situation réelle d'acquiescement à l'existence.
Donc pour Nietzsche, juste pour finir sur cette idée, il y a une forme d'esthétisation de l'existence, mais qui ne doit pas du tout... Il y a une forme de réactualisation, en fait, de l'éternel retour. C'est-à-dire que ce n'est pas juste le choc de cette annonce, c'est aussi réactualiser, incorporer et redonner cet éternel retour.
C'est une pensée qu'il s'agit de vivre. Fondamentalement, une valeur, c'est une pensée, je l'ai dit tout à l'heure, qui est passée dans la vie du corps, et elle n'est plus simplement pensée intellectuellement, elle est véritablement vécue, c'est-à-dire qu'elle régule mes actes et mon choix d'existence.
Oh, do it again. I may say no, 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 no. But do it again. My lips just ache to have you take the kiss that's waiting for you. You know if you do, you won't regret it. Come and get it. Oh, no one is near. I may cry, oh, 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 but no one will hear. Mama may scold me, 'cause she's told me it is naughty, but then, oh,
un grand merci à vous, Patrick Wöttling, d'être venu nous parler de l'éternel retour de Nietzsche. Il reste encore beaucoup de choses à dire, notamment sur cette idée de législateur. Qui peut enseigner cette doctrine de l'éternel retour? En tout cas, merci. Je rappelle aux auditeurs qu'on peut lire de vous le dictionnaire Nietzsche, donc c'est en collaboration avec Céline Denas et chez Ellipse. Nietzsche et le problème de la civilisation, là c'est au PUF. La philosophie de l'esprit libre, introduction à Nietzsche, c'est chez Flammarion. Puis enfin, la pensée du sous-sol chez cette très jolie maison d'édition qui est Thalia. Et enfin apparaître en 2016 un nouvel ouvrage au PUF intitulé « Oui, l'homme fut un essai, la philosophie de l'avenir selon Nietzsche ». Et puis j'en profite aussi pour le signaler, les œuvres de Nietzsche sont disponibles en un volume chez Flammarion dans une édition que vous avez préfacée Patrick Wöttling et dont vous avez traduit certains textes. Et quant à nous, chers auditeurs, eh bien, on se retrouve demain pour la suite de cette semaine répétitive. Et demain, ce sera Anne Sauvagnargues qui viendra nous vous parler de Deleuze, différence et répétition. Et quant à vous, eh bien, pour écouter cette émission, rendez-vous sur le site de France Culture à la page des Nouveaux Chemins. Vous pourrez l'écouter en ligne, mais aussi la télécharger et la podcaster. Et puis rendez-vous aussi sur les pages Facebook et Twitter des Nouveaux Chemins où toute l'équipe met en ligne l'émission du jour.